Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Vanessa Lemoigne, on va se régaler, vous allez voir. Elle a plein de choses à dire, mais avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à soutenir le projet, parce que franchement, c'est en train de prendre des proportions complètement dingues, mais on n'est pas assez nombreux. Encore une fois, proportionnellement au nombre de vues, nombre d'abonnés, c'est pas encore ça. Allez, je compte sur vous, et c'est parti Vanessa, comment tu vas?
Ça va Colin et toi?
Ça va au top. Tout roule, la vie est belle, les oiseaux chantent?
Les oiseaux chantent, je sais pas, je viens de couper mon arbre, du coup il n'y a plus trop d'oiseaux. Enfin, il y a l'arbre toujours, hein, mais je vais faire un petit toilettage. Sinon, oui, la vie est belle, j'ai fait mon yoga, donc j'ai les chakras ouverts et prête à répondre à toutes les questions. Et je précise, je suis très contente d'avoir l'opportunité de faire cette interview avec toi. Moi, je te suis depuis un petit moment, comme une spectatrice, tu vois. J'aime bien ton approche. Je t'avoue que j'ai un peu peur parce que tu es un peu un psychologue. Et donc, tu vas aller chercher dans les tréfonds de mon moi, tu vois, des trucs. Donc, voilà, donc j'ai un peu cette crainte-là.
Mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer de toute façon. C'est toi qui décides à quel point tu as envie de te livrer ou pas. Karim Benzema, j'ai vu que tu avais partagé sur les réseaux le Ballon d'Or. Évidemment, je suppose que ça t'a un peu touché. Tu as une résonance particulière chez toi de le voir enfin célébré comme ça par le monde entier et pas que la France?
En fait, c'est déjà que je trouve que c'est un magnifique symbole de résilience. C'est qu'on peut faire des erreurs dans sa vie en tant que jeune homme ou jeune femme et savoir apprendre aussi de ses erreurs. Et puis, il n'a pas fait que des erreurs, hein, d'ailleurs. En passant, je dis ça, notamment en termes de communication. C'est juste que parfois, il était un peu en avance sur son temps, je trouve. Il a dit les choses, il a dit les mots. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le travail. C'est cette valeur du travail en fait, qui transmet à chaque fois. C'est ce qui revient systématiquement. Et puis après, j'ai aussi un petit truc un peu particulier avec lui. C'est que déjà ma mère est méga fan parce qu'il ressemble à mon petit frère, il est de 1987 comme mon petit frère. Donc ma mère depuis des années elle est à fond team Benzema. Il y a eu toute l'histoire autour de l'équipe de France aussi son retour. Elle était super contente et moi aussi parce que du coup j'ai eu la chance avec Smaïbou Abdella d'être les premiers à faire son interview pour un média français à son retour en équipe de France et c'était son choix. Parce que aussi, il y a eu une période où moi, je me suis exprimée dans une émission, c'était celle d'Omar, et j'ai pris une vague mais de chienlit derrière, parce qu'en fait, moi, ça me faisait mal au cœur de voir son niveau au Real Madrid, et déjà parce que son travail, tu vois, sur le terrain, même sans ballon, même si effectivement les stats parlaient pas toujours pour lui, notamment au niveau des buts, je trouvais qu'il faisait un travail fantastique, et tous le disaient hors antenne, en fait. Mais il y avait une sorte de truc un peu particulier où ça faisait un peu mauvais genre de le dire à la télé. Et en fait, à un moment, j'avais profité d'un off qu'on montrait, donc d'une image qu'on montrait avec où il faisait une passe D qui était absolument incroyable. Et en fait, j'ai dit, moi, juste, j'ai envie de m'arrêter sur Karim Benzema un instant parce que je trouve ça pas normal qu'aujourd'hui, il y ait un joueur comme ça qui fait partie de l'un des meilleurs joueurs du monde et qui puisse pas porter le maillot d'une équipe nationale et participer aux plus grandes compétitions. Comme un mondial et je dis je trouve pas ça normal, je trouve que c'est en fait ça devient injuste et je lance ce truc. Pourquoi est-ce que si l'équipe de France ne veut pas aujourd'hui qu'il joue en équipe de France et qu'en plus on n'a pas de timing sur son retour parce qu'il n'y avait aucune communication autour, pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas jouer avec le maillot d'une autre équipe nationale? Ça se fait dans le handball, ça se fait dans le rugby. Moi, je viens aussi de ce monde-là. Dans mes émissions, je parle de tout, en fait. Et donc, je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas jouer maintenant pour une autre nation. Et alors là, je me prends un tollé, des gars en plateau. J'ai un rire à côté de moi, mais tu racontes n'importe quoi. Donc, je me sens un peu solo, sauf Omar, évidemment, qui me soutient à ce moment-là. Sur les réseaux, pareil. Ah, mais une vague où du coup je ferme carrément, je me dis bah vas-y, je regarde plus. Il s'avère que quelques jours plus tard, en fait, je pars en vacances et en fait, je descends de l'avion, je rallume mon téléphone et je regarde Twitter. Et là, mais je vois des notifs de partout. Je dis qu'est-ce que j'ai encore fait quoi? Et en fait, bah lui-même avait repris, après qu'un journaliste lui ait posé la question, avait repris en fait, la question avait été posée à Noël Le Graët et lui avait répondu en disant laissez-moi jouer pour une autre nation. Et donc là, les gens forcément me nomment. Et puis, ça une mini remontada pour moi, en tout cas. Ce qui était un buzz négatif était devenu un buzz positif grâce à lui à ce moment-là. Et je pense qu'après, quand il a fallu qu'il reparle en fait, à un média français, quand il arrive en équipe de France, je pense que ça, mine de rien, alors peut-être pas lui, mais dans les gens qui sont autour de lui, ça, c'est resté dans un coin de sa tête, en fait, ce moment-là. Bah, clairement, ce jour-là, il m'a donné de la force, quoi, parce que j'avais eu 20 minutes avec lui. Voilà, une interview, franchement, en plus, sur l'homme, sur sa vision du football, sa vision à lui de la vie. et j'avais surkiffé. Donc j'ai un rapport particulier avec Karim Benzema, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un joueur aujourd'hui. J'aime bien sa façon d'aborder les choses. J'aime bien l'homme qu'il est devenu. Le papa aussi, avec ce côté, voilà, les valeurs familiales, il aime bien en parler. Et puis bah le ballon d'or du peuple. Alors il a l'explication qu'il veut et c'est normal, hein, il peut pas, je sais pas, peut-être qu'un jour il donnera une autre version, mais moi je suis obligée de penser à un seul héros, le peuple. En fait, quand il a dit ça, ça m'a renvoyé tout de suite à ça. Après, peut-être parce que c'est mon histoire personnelle, et un seul héros, le peuple, ça c'est une maxime très forte qui est utilisée en Algérie. Et donc du coup, bah voilà, tout ce qu'il y a derrière sur les jeunes issus des quartiers, donc la valorisation aussi des talents qui viennent des quartiers, il y avait ce côté-là, et le côté abnégation, c'est-à-dire tu peux partir de nulle part et devenir quelqu'un en fait. Alors même si ça fait un peu naïf de dire ça comme ça, moi je trouve que c'est en tout cas c'est un bel exemple d'influence pour la jeunesse.
Dis-moi, le meilleur joueur français, selon toi, de l'histoire, qui c'est?
Zidane, parce que Zizou, il a fait rêver. Et puis, bah, parce que par rapport à tout ce que je t'ai dit aussi pour Karim Benzema, même si il me fait penser un peu à Michael Jordan, c'est-à-dire que tous ses engagements à Zidane, ils ont été un peu dans l'ombre, il n'a jamais communiqué dessus. Mais
Non.
juste par sa présence, et c'est un peu la même chose pour France 98, en fait, les rôles modèles qu'ils ont donnés, en fait, ont permis d'inspirer toute une génération derrière, de petits garçons et de petites filles, et j'en suis la preuve, en fait. Et puis, bah, Zidane, moi, pour moi, à la maison, tu vois, ma mère, elle disait, ouais, il est algérien. Tu vois, ah là, tu vois, ah il y a les Algériens, hein, ils ont du talent, hein, les Algériens. C'est marrant. Ouais, trop fort, quoi, trop fort. Il inventait des gestes, c'était fluide, c'était facile le foot. Et bah là, tu descendais en bas de l'immeuble et tu voulais refaire la même chose, et puis bah tu te rendais compte que non, c'était pas possible.
Mais c'est bien d'avouer que tu as essayé. C'est bien
Bien sûr.
d'avouer que tu as essayé. D'accord. Quand tu fais une interview que j'ai adorée de toi, c'est celle avec Didier Deschamps, qui est quelqu'un qui se maîtrise beaucoup, qui se contient beaucoup. Et je l'ai trouvé pour la première fois, il m'a beaucoup touché dans l'authenticité qu'il s'était permis d'avoir dans ton interview. Est-ce que elle a été plus particulière, plus compliquée à préparer que d'autres?
Alors oui, parce que j'avais pas le droit de me louper. En fait, je l'ai vu comme la CAN, comme l'Euro et comme le Mondial. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris qu'il y a des temps forts dans ma saison parce que tu peux pas en fait mettre autant d'énergie pour préparer. Et moi, en fait, je travaille beaucoup parce que j'ai toujours une angoisse. J'ai un complexe de légitimité, donc je me dis bah en fait, c'est pas moi qui devrais faire. Moi, ça va être nul ou je vais être gênante, ou je vais pas poser les bonnes questions. Donc, je bosse beaucoup. Je prépare, je prépare, je prépare énormément. Mais en même temps, je suis persuadée que peut-être, moi, je vais faire naître quelque chose qui va être différent des autres et que peut-être par mon approche, voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il faut que je raconte les coulisses de cette interview, même si à l'époque, on m'avait demandé de pas trop le dire. En tout cas, il ne communique pas dessus. Mais il faut savoir qu'en fait, Didier Deschamps, il m'a donné cette interview. C'est suite au documentaire de On n'est pas des des journalistes et de la création aussi de l'association Femmes de journalistes de sport. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Fédé nous a contactés et nous a demandé en fait comment on peut vous aider. Et j'ai trouvé que la démarche était bien. Alors déjà, la première des choses, c'est que j'ai voulu amener moi des jeunes et des jeunes de mon asso, enfin de l'asso avec laquelle je collabore qui est Golden Block. On a amené des jeunes de femmes de journalistes de sport à Clairefontaine, mais moi j'ai amené aussi des jeunes de chez moi et des filles donc. Donc on a amené des filles à Clairefontaine participer à une conférence de presse et elles ont eu aussi leur propre conférence de presse avec Guy Stéphan où il a répondu à toutes les questions. Des fois il y avait des questions, elles ont été à fond quoi, c'est-à-dire qu'elles ont mis les pieds et tout, et lui il dit ah bon, tu poses cette question-là, t'as pas peur? Et donc du coup c'était un peu dans la même démarche. Et en fait, sur nos cas particuliers, en tant que journaliste dans des rédactions, c'est vrai que moi, rarement, j'ai été à Clairefontaine pour faire des interviews, par exemple. Ou alors, comme pour Karim Benzema, bah, c'était à leur demande à eux. Et bah, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que c'est la Fédé, c'est Didier Deschamps, qui a demandé à ce que ce soit moi, en fait, de beIN Sport, qui fasse cette interview-là. Alors que normalement, c'est pas moi là qui suis prioritaire, c'est pas à moi de la faire cette interview-là. On a toute une équipe, qui est l'équipe beIN Bleu, qui suit Didier Deschamps, et donc ils l'ont fait régulièrement, hein, Didier Deschamps. C'est pas la première fois, hein, qu'il donne une interview à beIN Sport. Sauf que là, en fait, en gros, ils m'ont donné de la force. Aux yeux du grand public, en tout cas, et même vis-à-vis de beIN, bah, ça me positionne, en fait. Ça me positionne dans une expertise que parfois, soit moi je vais m'interdire de me donner, soit on va pas me la donner parce qu'il y a des a priori qui sont vrais ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, il y a des a priori. Et donc, du coup, ça te met une grosse pression. Et l'interview, je ne te cache pas que pour le coup, j'ai été revoir les matchs de l'équipe de France. J'ai analysé, je suis remontée à très loin, j'ai été voir la data. D'ailleurs, on lui a proposé une séquence spéciale data. Donc, en fait, en gros, je voulais que ce soit le plus complet possible. Tout en me disant, je connais en fait le personnage, comment il fonctionne dans les interviews, donc il faut que je l'amène à moi. Et ça sert à ça, en fait, tout le côté, on parle de l'enfance au début, et c'est quelque chose que je fais régulièrement, l'enfance, le début de carrière, parce que, en fait, tout simplement, leur laisser l'opportunité de se raconter et de récupérer leur storytelling, en fait, à eux. Et leur montrer que finalement, dans cette interview, il n'y a pas de limite à ce que eux ils ont envie de confier. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux
Oh
dire.
si, moi je vois parfaitement ce que tu
C'est-à-dire
veux
que
dire.
c'est leur réponse en fait qui va
Ouais.
compter, ce n'est pas tellement ma question.
Ouais.
Donc si moi je dis quelque chose et qu'il n'est pas d'accord, il peut me dire non, je ne pense pas ça. Et en fait, du coup, ça a donné, il a été super généreux. J'ai trouvé très généreux, l'interview a été enregistrée, elle a été très longue, hein, parce que du coup, ça a duré 1 h 10, 1 h 15. Ce qui est rare, tu vois, d'avoir un moment comme ça avec lui et que ce soit aussi long. Et puis, du coup, sur plein de sujets, à la fois sur son enfance, sa vision du football, l'Italie, tu vois, lui, son rôle au sein des équipes où il a été en tant que capitaine, puis après sur le leadership, et puis après sur les systèmes de jeu, sur ce qu'il essaye de mettre en place, sur sa vision justement de la data, sur les critiques aussi, parfois des journalistes, et puis aussi sur l'achat à des dents. Et ça, c'est un moment incroyable. Il nous sort cette anecdote qu'il y a un chat qui le suivait, qu'il l'a croisé à chaque fois.
Ouais.
Mais moi, j'ai ri avec lui, ça m'a fait rire. Donc, au-delà de juste l'interview, de ce que ça a rendu, franchement, moi, j'ai passé un bon moment, en fait. J'ai passé un super moment.
Je vais être transparent avec toi et avec les autres. Tu es en train de foutre en l'air la totalité de mon interview. J'avais, tu sais, j'étais dans un format qui s'appelle Raconte ton foot, très spécifique avec des rubriques et tout. Tu as tout foutu en l'air parce qu'il y a trop de sujets
Désolée.
intéressants que j'ai envie de développer. Donc non, ça va pas désolé, on va basculer, c'est pas grave. Au départ, je voulais te donner une call interview, bah, tu l'auras ta call interview parce que c'est trop intéressant pour que je m'arrête. Alors, il y a plusieurs choses que tu as abordées là. Déjà, quand tu dis la façon de préparer l'interview, de parler de l'enfance et tout, ce que ça permet, ça me parle tellement parce que c'est, je pense comme ça que j'arrive moi aussi à créer un lien particulier qui fait que les gens me demandaient souvent, mais quand tu arrives en interview, je crois que j'ignore. Peut-être aller 40, entre 40 et 60% en fonction de l'interview, du contenu que j'aurai à la fin. Tu vois?
Oui.
Mais je ne l'avais jamais vu, lui. Pourtant, il en a fait plein des interviews, je t'avoue. Félicitations, parce que je ne l'avais jamais vu se livrer comme ça. Et ça a été une source d'inspiration pour le travail que je fais. Quand tu me parles de ta légitimité, encore une fois, ça me parle parce que je souffre de la même chose. Je sais, je suppose que ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est peut-être juste un trait de caractère. Mais je souffre de cette légitimité-là aussi quand je prépare mon travail d'interview. Toi, elle vient d'où?
Je pense que ce sont des choses latentes qui se sont imprégné dans mon inconscient sur les stéréotypes déjà de genre, sur les stéréotypes sociaux aussi. C'est que moi, j'ai fait des études, mais je n'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire parce que je n'avais pas les moyens. Tu vois, les bagages en fait que j'ai pas en fait tout simplement parce que j'ai eu des difficultés au départ qui sont liées à mon environnement et qui ont créé des complexes en fait chez moi qui fait que du coup, je me sens jamais à ma place. Je m'aime encore, tu vois. Après, maintenant, j'ai pris l'habitude de dire les choses et tant pis, tu vois. Et de formuler les choses, ça me permet de me dire, non, en fait, tu vas pas être comme ça, tu vas travailler, tu vas montrer que tu es à ta place et que finalement, il n'y a pas de déterminisme et qu'il n'y a personne qui doit te dire si tu es à ta place ou pas. Et en vrai, plus on va me dire maintenant, hein, surtout, et puis en fait, ça avant, c'était un peu inconscient, mais plus en fait, on va essayer de me montrer que je suis pas à ma place. Et plus, wow, ça va me donner une motivation incroyable pour travailler, mais 1 000 fois plus. Mais quand je te dis travailler, c'est pas genre, ouais, je vais faire 2 heures. C'est que je me rends malade parfois. Par exemple, l'interview de Guendouzi, là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais si je te dis que réellement, j'ai passé 10 jours non-stop, c'est-à-dire que quand je rentrais, dès que mon fils était dormait, je me remettais sur ma tablette à bosser, à reformuler mes questions, à aller voir en fait toutes les séquences que je pouvais récupérer sur Internet où on le voit jouer, mais à me rendre malade finalement de... C'est comme si moi, je lui pose des questions, mais je peux faire ses réponses. Je sais déjà ce qu'il va me répondre, le type, en fait. Mais ça c'est pas normal, tu vois. Je sais que c'est pas normal. Mais c'est aujourd'hui la seule façon que j'ai trouvée pour me dire, quand je vais rentrer sur un plateau télé, quand je vais rentrer quelque part, me persuader que ouais, en fait, je suis une p*** de professionnelle. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et la légitimité, ben écoute, je pense que j'aurai toute ma vie ce complexe de légitimité. Je suis persuadée que je ne suis pas à ma place. Voilà. Et qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et en plus, c'est vrai. Après, grâce aux gens qui sont aussi autour de moi, des gens qui travaillent avec moi, qui me reprennent aussi sur ma façon de parler. Et notamment, là, tu vois, j'ai personne autour de moi pour cette interview-là. Mais il y a une personne qui m'est proche, notamment Charlotte Pratto, qui souvent, après l'interview, me dit, arrête de dire ça. Arrête de dire cette phrase, c'est pas vrai, arrête, arrête, parce que du coup, tu te persuades toi-même. Après, j'ai appris à le dire aussi, à le formuler, et je pense que bah, peut-être que ça peut aider d'autres, hein, tu vois. Finalement, j'ai l'impression qu'on est tous chacun, on a l'impression qu'on n'est pas à notre place.
Bon, tu m'as dit que on se mettait des barrières, que tu as été, entre guillemets, recherché, ton profil a été recherché, mais pas pour les bonnes raisons à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Parce qu'à l'époque, en fait, c'était le moment où en Italie, il y avait beaucoup de bimbos qui étaient. Et après, encore une fois, on a le droit d'être une bimbo. Mais il y avait beaucoup de femmes qui étaient prises à l'antenne avec cette démarche de se dire, ce sont des hommes qui regardent la télévision, donc il faut mettre des femmes parce que les hommes aiment les femmes. Donc une sexualisation, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais après, c'est plus tard, tu vois, en regardant mon parcours. Et en me disant, parce qu'au départ, je ne voulais pas forcément faire de l'antenne. Moi, j'ai bossé chez Koé, tu vois, après mes études. J'ai bossé en boîte de nuit parce que, pour payer mes études. Et puis bah, derrière, il y a eu une sorte de 9 mois de trou noir où je n'arrivais pas à trouver du boulot. J'ai fait Info Sport, j'ai essayé Info Sport, l'équipe TV. Donc, j'envoyais des CV partout. Koé me répond, donc j'arrive chez lui. Et donc, j'ai bossé avec lui. Et après, quand j'ai voulu me remettre dans ce que j'avais envie de faire, qui était le journalisme sportif, j'ai été bosser chez Orange Sport. Et en fait, chez Koé, je filmais, je faisais des montages, j'écrivais aussi beaucoup des sketchs et tout. Et puis, bah, j'ai fait des sujets avant, tu vois. Donc moi, j'arrivais plus dans cette perspective-là. C'était ça dans ma tête que je savais faire. L'antenne, j'en avais fait très peu. J'avais fait une émission qui s'appelait PSG Côté Coulisses, ça a été une première, mais c'était une expérience, tu vois, de 1 an et j'avais 19 ans, quoi. Donc voilà, je pouvais pas surfer là-dessus. Je pouvais pas dire que j'étais pas bonne, quoi. J'étais vraiment mauvaise. Et en fait, ils me prennent pour l'antenne, pour présenter des JT. Et mes premiers JT, c'était une catastrophe. Mais le jour où quelqu'un ressort ces JT-là, mais c'est honteux, tu
Mais
vois.
pourquoi?
Comment tu mets quelqu'un comme ça à l'antenne,
Mais
quoi?
pourquoi
Non, mais
c'était honteux?
vraiment.
Il y avait quoi de honteux dans ce que tu faisais?
Mais il n'y avait rien qui allait. La forme, tout, c'était. En plus, je voulais faire la présentatrice. Donc, tu vois, oui, bonjour. Voilà, donc ça n'allait pas du tout. Après, ils
D'accord.
m'ont accompagnée. Il y avait Arnaud de Courcelles et Patrick Chêne. Et j'ai eu de la chance, tu vois, de tomber vraiment sur ces personnes-là. Patrick Chêne, en plus, j'étais fan, tu vois, quand j'étais jeune, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était mon tonton, parce que je regardais le Tour de France. Donc, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est Patrick Chêne. Et en fait, ils m'ont accompagnée pour progresser, et voilà. Mais eux, ils avaient, c'est déjà ce truc-là de se dire, il faut féminiser l'antenne. Mais derrière, toujours, il n'y avait pas de femmes. Tu vois, dans les métiers de l'ombre, il n'y a pas de femmes. Donc, moi, je fais partie de la génération où déjà, il fallait trouver des rôles modèles et donc, du coup, des femmes à mettre à l'antenne, qui m'ont formée pour. Mais le point de départ, je sais que c'était ça, c'était une sexualisation. C'est parce que ce sont des hommes qui regardent la télévision. À Orange Sport, ça n'a pas été le cas, par contre, tu vois. Je sais que la démarche de Patrick Chêne, c'était une démarche très progressiste, pour l'époque, en tout cas, de se dire, moi, je veux une antenne mixte. Je veux des femmes, je veux des hommes, le sport c'est ça, mais aussi parce qu'il vient de l'omnisport et qu'il vient du vélo et que tu vois l'athlé. Donc du coup, il avait déjà cette unité centrale, on va dire, qui était déjà plutôt neuf, quoi. Voilà, il était un peu dans le futur. Mais voilà, j'ai conscience que le début, c'était pas pour les bonnes raisons. Et puis souvent, on me l'a dit aussi, tu vois, dans les commentaires qu'on me faisait, ouais, mais toi, tu es à l'antenne, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais ouais, c'est parce que t'es bonne, on t'a mis à la télé pour ton physique. Et en plus, ça crée un truc chez moi particulier, c'est que moi, je me suis jamais considérée comme étant belle. Même j'avais des complexes physiques, tu vois. J'avais les dents tordues à l'époque, donc là, j'ai fait un vis-à-ligne pour les dents. Donc, je pourrais te raconter cette histoire-là aussi. C'est grâce à Pascal Obispo.
D'accord.
Mais je me trouvais pas belle, moi. Donc du coup, ça me faisait un truc chelou dans ma tête de me dire, mais attends, il me dit que c'est pour mon physique, mais en fait, je suis pas. Enfin voilà quoi, tu vois, il n'y a pas de. Donc et ça, c'est pendant des années, je voyais ça. Et parfois, ça ressurgit encore.
D'accord. Bon, tu m'as parlé tout à l'heure de notamment du travail de Marie Portolano. Alors dis-moi, à quel point ça, parce que je trouve que c'est encore trop rare quand même ce genre de documentaire slash campagne slash pointer du doigt entre guillemets les vrais soucis de notre société. Je trouve que ce genre de documentaire et de campagne sorte à notre époque montre qu'on est en retard. Aujourd'hui, toi, à ton époque, dans ton travail de tous les jours, à quel point tu subis ce qui est dénoncé dans ce travail-là.
Alors déjà, il y a la première des choses, et je crois que, et tu vois, ce que c'est important de prendre toujours du recul sur ce que tu fais, pour pas que ce que tu fais devienne de quelque chose de négatif. Moi, j'aime pas en fait que ça devienne de l'énergie négative. C'est important de dire que ce documentaire ne pointait pas du doigt des personnes, ça pointait du doigt des comportements qui sont, pour le coup, dans la société. Le sport, c'est juste en fait un miroir grossissant de ce qu'est notre société. Aujourd'hui, toute femme à qui tu vas parler, que tu connais, a vécu dans sa vie une agression sexiste, une agression sexuelle. Ça, faut le savoir. Il n'y a pas une seule nana à qui j'ai dit ça et qui m'a pas dit ah non, non, moi, il m'est jamais rien arrivé. C'est pas vrai. Après, à moindre mesure, mais ça ne veut pas dire que c'est normal de l'accepter. On a toutes été, tu vois, victimes. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne subis plus. C'est-à-dire que, à la fois le travail de l'équipe à l'époque avec Sacha Nokovic, qui était le premier hein, finalement à venir nous poser des questions sur, pendant le confinement sur voilà, comment on vit dans ce milieu-là, et qui a été le premier à nous interroger, et où moi à l'époque j'avais plutôt ce discours de ouais, mais moi j'affronte, c'est une compète mixte, ou du coup, toujours de me dire de me servir, mais c'est un peu négatif finalement, des coups durs, tu vois, des coups bas qu'on va me faire. De m'en servir pour être toujours dans la bataille, en fait. Et en fait, ça te fait du mal d'être comme ça. Et le docu de Marie, et en plus, on s'en est parlé, tu vois, avec elle, et pour le coup, elle nous a mis en co-réalisatrice pour ça, c'est qu'en fait, c'était nos histoires qu'on venait confier. Et ce qui est assez compliqué, c'est que, tu vois, tu vas parler de gens que tu aimes aussi. Tu vas parler de gens que tu aimes et que tu apprécies, pour qui parfois tu as du respect, mais qui ont des comportements qui vont être déplacés à certains moments bien précis. Et ces comportements-là, en fait, si tu l'as pas réalisé sur le moment, en tout cas moi ou quand j'étais plus jeune, eh ben je me suis rendu compte que ça m'avait affectée parce que soit ça m'avait mis mal à l'aise, j'avais pas comment surréagir et que ça te crée une sorte de bah ça te fait un petit traumatisme, t'as une dissociation en fait quand t'as quelqu'un que tu apprécies, que t'aimes bien et qui te fait un truc qui te fait du mal en fait. Et donc du coup t'as ce truc-là qui est très compliqué. Tu pourras poser la question si t'as l'occasion à toutes. Moi ce documentaire m'a fait beaucoup de mal aussi. Derrière m'a fait du mal en fait. Parce que d'être incomprise sur ce qu'on racontait, alors beaucoup ont compris, heureusement, c'était montrer que l'accumulation de petites agressions sexistes ou même bah, de soulever une jupe, tu vois, d'essayer de t'embrasser, tu vois, des trucs comme ça, en fait, quand tu les mets bout à bout et que c'est une accumulation et que finalement, bah, c'est durant toute notre vie, toute notre carrière, bah, en fait, toi, t'as pas à subir ça, t'as pas à devenir... Bah, les femmes dures qu'on est toutes devenues. Parce que celles qui sont restées, et j'en connais qui ont lâché l'affaire, en fait, et ça fait de la peine, bah, en fait, toutes celles qui sont restées, on n'a pas eu le choix d'être douces. On est dures. On est très dures. Et aujourd'hui, et c'est la vérité, aujourd'hui, maintenant, je suis factuelle. Parfois, ça me coûte, et je sais que je suis un problème, et c'est dommage, mais voilà, ma vie professionnelle, en fait, je sais qu'elle... Elle n'aboutira jamais finalement à un truc qui va être pour moi quelque chose de positif et de cool parce que j'ai trop eu mal en fait. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive, tu vois, il y a 2 semaines, il y a un truc qui ne me plaît pas parce que c'est sexiste en fait. Et bah, je suis obligée, je fais un mail et je le dis. Et voilà, et ça, et vous ne vous rendez pas compte que c'est ça. Mais non, pas du tout, parce que c'était plus de l'humour. Bah non, c'est, bah non, ok, l'humour, ok, ça a bon dos. Mais là, en fait, ça correspond à ça. Et voilà ce que ça fait. Et moi, ça me blesse. Mais en fait, il faut que je le fasse. À la fois pour moi à titre personnel, mais aussi pour les petites jeunes qui vont arriver derrière. En fait, c'est qu'on a une responsabilité aujourd'hui qu'on a la possibilité finalement de dire les choses et que ce soit entendu, bah de les dire sans avoir peur, même si finalement, moi, je sais que ça me coûte et que ça me nique ma carrière professionnelle, très clairement, je te le dis. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Je te donne un exemple. L'Euro. Mon deuxième match, le Danemark. Pourquoi est-ce que ça tombe sur ma tête, tu vois, ce qui s'est passé pour Eriksen, je te jure, j'ai eu une angoisse à ce moment-là où je me suis dit, waouh, ça va être dur de gérer ça, parce que est-ce que faut trouver les bons mots, faut... Et puis même, moi j'ai l'émotion, je vois le gars, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que, bah voilà, moi j'ai que des situations comme ça. Et j'ai toujours que des situations comme ça. Voilà. Après, je gère ou je sais, ou je gère pas, je sais pas, tu vois. On fera le bilan à la fin. Mais en tout cas, j'essaye de faire le mieux possible.
Le retour de ce moment que tu as vécu à l'Euro avec Eriksen, il est bon ou il est négatif?
Si, il est bon au final. Et tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais déjà vécu cette situation, une situation un peu similaire qui était dropped avec un ami à moi qui était dans un des hélicoptères, Alexis Vastine, où je suis réveillée. Je faisais une émission de matinale qui était expresso et je suis réveillée dans la nuit. Et on te dit que, en fait, ton pote est mort, quoi. Et on te dit, va à l'antenne. Mais en fait, tu appuies sur un bouton. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'antenne. Je me souviens juste de la souffrance que ça a pu provoquer chez moi, en fait, de me forcer à aller quelque part alors que tout ce qu'il y a en moi ne pouvait pas, en fait. Ça, c'est un traumatisme. Et en fait, ça m'a, quand il y a eu le truc d'Erickson, ça m'a réactivé automatiquement ce truc-là. Et en fait, pour gérer cette situation, j'ai eu la chance d'avoir des gens, des chefs d'édition qui étaient avec moi à l'époque, dont un qui s'appelle Steven Le Diagorn, et qui, du coup, en fait, on était devant la télévision, et en fait, il y a eu un moment où, au bout de 5 minutes, parce que le premier truc, c'est que tu deviens téléspectateur, tu regardes, tu les écoutes. Et en fait, tac, on s'est regardé, on s'est dit, ah, il faut qu'on aille les aider. Et en fait, j'avais Florent Ouzo qui était à côté, qui était sidéré, parce que du coup, waouh, tu vois, tu te remets du truc. On dit à Florent, on peut rouvrir le plateau, on peut y aller. Et il dit, bah, allez-y. Et en fait, tac, on est retourné à l'antenne. Moi, sur ma route, je croise Flo Janton. Je lui dis, Flo, s'il te plaît, viens à l'antenne avec moi. Et en fait, j'ai dit, appelez Christophe Josse, parce que Christophe Josse, quand même, c'est la personne qui a commenté le plus de matchs dans des compétitions internationales. Et j'avais besoin de gens comme ça, d'expérience, en fait, avec moi. Et pour être des relais. Donc, pour moi, on a fait une co-animation à plusieurs, en fait. Et puis, bah, après, le premier truc quand je parle à l'antenne, c'est que je me dis, bah, en fait, il y a Noam, qui est mon fils, qui est en train de regarder. Parce que, du coup, c'était mes premiers matchs, tu vois, c'était un de mes premiers. Mais je crois que c'était mon premier, en fait. Et donc, je me dis, bah, Noam, il est devant. Tu vois, donc, du coup, je me dis, mais comment je vais dire les choses? Et donc, en fait, en gros, on a un très bon réalisateur qui part sur le plan large, choisit de commuter en fait, et ne passe pas sur le flux qui est proposé aux chaînes de télévision. Donc là, en fait, en France, nous, le Real, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque du coup la diffusion des images. Moi, par contre, j'ai le retour devant moi. Donc je vois tout. Je vois le massage, je vois tout. Donc en gros, je me dis, je vais raconter, je vais décrire, mais je vais dire les mots en fait, tout simplement. Je vais dire les mots. Et je vais le dire pour un enfant, parce qu'il y a des enfants et il y a mon fils qui est devant. Donc en gros, je me positionne aussi en maman jusqu'au moment où on a l'info. Donc je reçois un message, j'avais quelqu'un qui était là-bas que je connaissais, qui bossait avec l'UEFA et qui m'envoie un message et qui me dit apparemment c'est OK. Son père a parlé à telle chaîne. Donc je vais sur Twitter, je regarde et effectivement, tac. Il y avait tu vois, ça avait un message où tu avais le communiqué du père qui leur avait parlé et tout. Et donc là, en fait, quand je dis les trucs, j'ai un soulagement. Et là, en fait, je redeviens juste une personne lambda et je chiale. Je chiale. Et je pense que toutes les personnes qui étaient devant leur télévision ont eu la même réaction que moi parce qu'en fait, je ne voulais pas être la personne qui allait incarner un moment aussi dramatique à la télévision. Parce que ça, après, c'est des trucs qui restent. Et je voulais pas voir ma tête associée à ça, quoi. Et donc, ça s'est transformé en quelque chose de ultra positif où derrière, ben, du coup, ben, c'est moi qui ai fait tous les matchs du Danemark et où, voilà, il y avait une force qui émanait de cette équipe. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est une de mes équipes préférées pour la résilience, pour ce qu'ils ont montré, pour ce qu'ils montrent encore aujourd'hui, même dans leurs engagements. Voilà, c'est une équipe que pour le coup, j'aime. Voilà, vraiment, je les aime. Et je suis contente quand je vois Eriksen, tu vois, sur un terrain et tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille et tout. J'ai envie de lui envoyer des cœurs sur Twitter. D'ailleurs, je l'ai fait.
D'accord. Bon, on va parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Il y a la CAN. Ça fait vraiment partie de toi, partie de ta culture, partie de ton éducation. Voilà, ce côté, la partie algérienne de ton éducation. Dis-moi ce que ça représentait, parce que j'ai lu les interviews, j'ai lu les déclarations que tu as pu faire quand tu y étais, quand tu as été envoyé pour superviser, pour encadrer, pour rapporter la CAN à beIN Sport. En quoi est-ce que ça a été un step-up dans ta carrière? Qu'est-ce que ça a modifié sur ta façon d'appréhender le métier et d'appréhender la vie que te permet d'avoir ce métier-là?
Alors, le premier truc, c'est que quand on attaque la saison, on ne m'avait pas fait des promesses, mais je pensais être sur la Ligue des Champions dans le dispositif. Après, quand tu réfléchis, il n'y avait pas de place pour moi en vrai. Tu vois, il y avait déjà des gens qui étaient en place, qui avaient fait celle d'avant. Il aurait fallu évincer quelqu'un. Et ça, en vrai, j'aurais pas assumé. Et donc, du coup, je ne suis pas sur le dispositif Ligue des Champions. Et donc, j'ai un coup de mou, quoi, tu vois. J'en veux à personne, mais du coup, je me dis, bah, pff, tu vois, c'était un de mes rêves, ça aussi, quoi. Donc, du coup, tu sais, j'ai un petit coup de bad trip à un moment donné. Et en fait, Florent, assez vite, Ouzo, me dit, par contre, ouais, il y a la CAN en janvier et on voudrait que tu la fasses. Et donc, mon premier truc, c'est que je comprends pas, en fait, tout de suite l'opportunité que ça va être pour moi. Et assez vite, quand je rentre dans la préparation de la CAN, je me rends compte que, en fait, je vais incarner toute seule bah, une compétition, qui est quand même une compétition très forte et pour laquelle, en fait, moi, j'ai beaucoup d'attaches depuis toujours, en fait. Déjà, même dans mes premières expériences professionnelles à Orange Sport, où je bossais un petit peu dessus, c'était Flo Janton à l'époque à Orange Sport qui l'incarnait. Et en fait, je me rends compte que finalement, ça va être la première compétition internationale où je vais porter le truc sur mes épaules. Donc, professionnellement, ça va peut-être me permettre, moi aussi, de progresser en vue du mondial après, et de me donner confiance en moi. Et en fait, je me dis, c'est intelligent, en fait, ce qu'ils ont fait. C'est de m'accompagner step by step, histoire d'aussi de me tester et voir comment je vais réussir à gérer le truc, et si on peut me confier autre chose encore après, quoi. Et en fait, moi, tout de suite, et c'est pas pour critiquer le travail des autres qui ont été faits avant, hein, pas du tout, mais je sais que dans la conception, dans ce que j'ai lu, sur le côté un peu, ouais, le foot africain, c'est folklorique, c'est des images, tu vois, de joie, de la danse, machin. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je la vois pas comme ça, en fait, la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je vois une niche avec des communautés et des gens qui sont très suiveurs du football de leur nation. Mais vraiment pour le coup. Donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je fasse des avant-matchs. Et en plus, on n'était pas sur place à cause du Covid, on pouvait pas aller sur place. Donc, on n'avait finalement que le faisceau, donc on ne pouvait pas proposer autre chose autour. Et je me suis dit, bah, ces joueurs-là, ils jouent aujourd'hui dans les championnats européens qu'on a. Bah, en fait, je vais faire des avant-matchs, comme pour tous les autres que je fais, tu vois, au cours de l'année, sur l'AC Milan, le Real, comme j'ai fait pendant l'Euro, où bah, finalement, on va parler de l'historique des nations, des duels de confrontation entre les équipes, des matchs dans le match, entre des joueurs, et puis bah, on va faire de la palette. Et en plus, j'avais les consultants pour quoi. Tu vois, Mehdi Benatia, Benjamin Moukandjo, Dembaba, Damien Perkis, Louisa Nessib. Donc j'avais des gens qui sentent le foot, quoi. Vraiment, ils puent le foot, ces gens-là. Et donc, du coup, bah, on a fait un truc ultra carré. Après, pour des gens qui bossaient avec moi, mes chefs d'aide, ils se tiraient les cheveux parce c'était beaucoup de travail, tu vois, il faut aller chercher les images, voilà. Mais voilà, en tout cas, assez vite, j'ai vu, et pour ça, c'est bien aussi les réseaux sociaux, tu vois tout de suite, en fait, les retombées, en fait, comment c'est perçu. Et en fait, c'était bien perçu. Ils ont vu que c'était carré et qu'on proposait quelque chose. Et puis, bah, après, moi, bah, l'Algérie, forcément, bah, ça m'a donné j'ai percé en Algérie de fou, mais genre
Ah
incroyable.
ouais, j'ai vu ça,
Des
oui.
articles, il y avait des articles, c'était fou quoi. Malheureusement, on m'a considéré comme un chat noir.
Ouais, bah oui.
Ah ouais, en
Élimination au
plus avec le
premier
match
tour.
à Blida derrière où j'ai été. Bon, voilà.
Ouais, c'est la petite touche noire un petit peu du tableau.
Ouais.
Mais
Ouais, je te dis, rien n'est jamais facile avec moi.
ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même là où tout est là pour que tu brilles, finalement, on te met un petit tiens, prends ça dans ta tête quand même.
Ouais.
Bon, ça reste quand même un des moments majeurs de ta carrière pour l'instant.
Ah ouais, à prime time. Ah,
Prime
c'était
time.
trop bien. Ah,
Ouais.
moi j'ai surkiffé. Ah, franchement, c'était fantastique.
D'accord.
Ah, sincèrement, c'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels.
Bon, tout à l'heure, j'ai fait un éloge. Je sens que j'aurais pas dû te le faire. Mais bref, j'ai fait un éloge en disant que tu étais une personne engagée, généreuse, avec des combats qui étaient louables et impressionnants. On a parlé du féminisme. Tu m'as parlé dans des proportions que je ne soupçonnais pas de ce que tu as pu vivre. Il y a un autre projet qui te tient à cœur, qui s'appelle Golden Blood, tu l'as mentionné tout à l'heure. Dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que des projets comme celui-là, on va rappeler, pourquoi créé en, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, créé en 2014 par Ladji Doucouré, Mathieu Lahaye et Boro Doucouré, qui consiste, dans les grosses lignes, à donner un sport, à faire en sorte que le sport soit accessible à tous. Il y a
D'amener
des.
le sport au cœur des quartiers.
Voilà, il y a des prix, même des prix sous forme de licences sportives qui sont attribués aux enfants et aux participants. Dis-moi pourquoi un projet comme celui-là, même si moi j'ai déjà la réponse que, parce que je commence à te connaître un petit peu, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi que tout le monde y ait accès?
Bah, c'est l'égalité des chances. Donc, tu vois, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé avec eux, c'est que eux, c'est sur vraiment, au départ, c'est sur la partie sportive. Tu amènes le sport au cœur des quartiers avec un sport en plus qui est ultra mixte, qui est l'athlétisme. Ladji, Doucouré, donc, il part de sa propre histoire, en fait, où il était en train de courir dans la rue, et tu as Renaud Longuèvre qui le repère et qui lui dit, attends, toi, tu cours super vite, viens, il y a un club d'athlètes à côté. Et en fait, ça, tu vois, quand tu habites dans un quartier, généralement, il n'est pas dedans ton quartier, en fait, le club d'athlètes. Il va être plus, tu vois, en extérieur, ou du moins tes parents ne vont pas penser, ou autre, on dit que c'est cher et autre. Et en fait, c'est créer ce lien-là, tu vois, entre les associations sportives qui peuvent être autour et le quartier, quoi. Donc déjà, tu viens, tu mets une petite graine, qui est la graine du sport, avec ses valeurs et tout. Et puis, ils organisent des sprints interquartiers. Donc des quartiers où tu vas te dire, ouais, c'est mort et tout, ils s'embrouillent, on ne peut pas les mettre ensemble. Bah là, en fait, tu te rends compte que les petits vont faire un truc basique. Faire de la course, quoi. Tu fais une course. Et bah, ça fonctionne super bien. Puis, un ancien de l'équipe qui venait pour leur donner les bases, en fait, du journalisme. Et puis, bah, moi, bah, je leur amenais des gens pour des interventions. Tu vois, Luis Fernandez, par exemple, il est venu, il a raconté son histoire. Et en plus, c'est la même, parce que lui vient d'un quartier, tu vois, issu de l'immigration. Donc, je trouvais ça intéressant, le parallèle, de voir comment lui, avec sa problématique, comment il s'en est sorti, quel regard il a sur ça aujourd'hui. Et en fait, à la fin, on a payé les études d'une élève. Et donc, du coup, et ça me tenait particulièrement à cœur, et j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus, c'est qu'on ait plus d'argent pour payer plein d'études à tout le monde. Parce qu'en fait, ça va de 15 à 22 ans. Donc, 15 ans, bah, tu mets la graine, tu les accompagnes, tu les emmènes dans des endroits. Je les emmène à Clairefontaine. Là, on a une séquence qui arrive, on va aller au ministère de l'Égalité des Chances, et où tu as deux élèves qui vont interviewer la ministre Isabelle Rome. Et puis bah, après, les autres, il y aura une séance de questions-réponses autour du thème justement de l'égalité des chances, des discriminations et de leur vécu à eux pour qu'il y ait un vrai échange et que quelque chose naisse aussi de ça. Et donc ça me tient particulièrement à cœur. Parce qu'en fait, je veux que ce que je fais, ça ne soit pas vain. Si aujourd'hui, sur ma carrière, j'ai un recul en me disant, bah ouais, c'est problématique et je suis un problème et compagnie, bah, ça me procure énormément de bienfaits, j'ai un bien-être. De me dire que je peux permettre ne serait-ce qu'à une seule personne d'un jour y arriver, en fait. Juste d'avoir, tu vois, été l'allumette qui va déclencher le truc. Tu vois, ça c'est la plus belle des choses que je peux faire dans ma vie, vraiment. Que finalement, tu vois, là où tu vas te dire, t'arrives à l'antenne, t'as la lumière sur toi, c'est quelque chose d'assez. C'est la vanité, tu vois. T'as un peu un truc d'ego trip. Et en fait, ça t'amène rien, ça t'amène vraiment rien, en fait. Tu ressens pas de choses positives. Ou alors, ça va, je sais pas, j'aime pas, en fait. Donc, je me dis, il faut que je mette du sens là-dedans. Et bah voilà, en cassant un peu les barrières, en essayant aussi de leur amener mon réseau, pour certains, parce que certains, on voit pas mal de CV, ils se prennent des gros murs. Quand t'en vois 40 CV parce que tu t'appelles Mehdi, tu vois, t'arrives pas à trouver quelqu'un, bah tu vois, moi, je trouve ça problématique aujourd'hui en 2022. Donc, fort heureusement. Il y a plein de gens qui sont des gens bienveillants et qui sont à des hauts postes aujourd'hui. Et voilà, s'il y a moyen de faciliter les choses, y a là, on y va.
Bon, on est dans les scandales, on est dans les polémiques, depuis pas mal de temps, depuis quelques semaines, depuis qu'on se rapproche et qu'on est dans la dernière ligne droite avant d'aller au Mondial, au Qatar. Bah, tout le monde en parle, tout le monde y va de son avis, de je boycotte pas. Est-ce que tu as un avis, toi, sur la question ou pas?
Oui, forcément, j'ai un avis. Alors, on va dire qu'il y a le personnel. Ça interroge ta conscience. Voilà, forcément, tu peux pas être quelqu'un d'engagé dans ta vie de tous les jours et pas te préoccuper, en fait, de la condition des autres. Et je l'ai toujours fait, en plus, pour d'autres pays, et ça concerne même pas que le Qatar, en fait. Et puis, bah, après, je suis journaliste, donc j'ai ma carte de presse. Donc, je vais là-bas avec ma carte de presse. Et à aucun moment, tu vois, nous. Et ça a été le cas, souvent on a eu cette critique-là, nous dire ouais, vous êtes pro-PSG parce que c'est les Qataris. Déjà, on a beaucoup de difficultés d'accès, par exemple, aux joueurs pour avoir des interviews, il faut le savoir. On est très mal lotis. On est même sous-considéré, j'ai envie de te dire. On n'est pas ce qu'on appelle un média premium pour obtenir des interviews du Paris Saint-Germain. Et bah, on n'a jamais reçu d'invectives, de messages, de mails nous disant, ouais, vous devez, attention, ne dites pas ça ou autre, on a le droit d'avoir la critique du Paris Saint-Germain. On ne nous a jamais rien dit. Et c'est la même chose, en fait, pour ce mondial-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication de ceux qui seraient nos big boss, en fait, par rapport à une éventuelle. Voilà, un éventuel mutisme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, nous, on part là-bas en tant que diffuseur, on va traiter l'information comme elle vient, en fait. Donc, s'il se passe quelque chose, bah, évidemment, en fait, bah, tu parles des choses et tu donnes les infos factuellement. Et après, là où moi, tu vois, j'ai pas envie de me répandre sur les réseaux, à répondre à des gens, alors ça reste assez ponctuel, mais à expliquer quelle est ma démarche et quel est mon métier et ce que je fais. En revanche, je pense qu'en tant que journaliste, et je pense que d'autres le font dans d'autres rédactions, moi, ça, depuis que le Guardian a publié son enquête, moi, je me suis renseignée. Et donc, du coup, je vais à la pêche aux infos pour que quand une situation va m'arriver, et ce sera le cas peut-être avec le Danemark-Tunisie, par exemple, vu que c'est le Danemark et qu'ils sont très engagés, bah, je veux pas propager de fake news. Moi, je veux être factuelle et je veux vraiment donner les vraies infos. Donc, j'ai rencontré Amnesty International. J'ai aussi été rencontrer une personne qui travaillait à l'ambassade du Qatar à l'époque et qui est rentrée en France aujourd'hui, donc qui a aucun problème à me dire les choses. Je lis tout et j'essaye en fait d'être flexible et de ne pas avoir d'angle mort dans la situation. C'est-à-dire à la fois, parce que j'ai une double culture aussi, ne pas avoir un regard trop occidental et trop européanisé en fait sur une situation d'un pays qui cherche à progresser, notamment sur le droit social, sur l'écologie aussi, avec, il faut le souligner, un gros travail d'Amnesty International. Et je pense qu'on parle beaucoup de boycott, de machin, mais ce qu'a fait Amnesty International, en fait, c'est le travail de la FIFA. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont assurés que cette Coupe du Monde bah, laissera une empreinte dans un pays, mettra la lumière en fait sur une problématique qu'il y a dans d'autres pays et là où par exemple des Jeux Olympiques ne l'ont pas fait. Tu vois, pour les Ouïghours par exemple. Quelle progression aujourd'hui tu as en fait pour ces gens? Aucune. Il n'y a rien. Et donc c'est normal qu'en France il y ait des voix qui s'élèvent et il faut, tu vois, c'est important parce que justement ça permet de poser le débat, d'amener quelque chose et de dire voilà, ça il faut le faire. Et c'est ce qu'a fait Amnesty avec le Qatar et à chaque fois. Tu vois, c'est ce qu'ils m'ont montré à chaque fois qu'en fait, ils ont été les voir, on dit ça, il y a ça, il faut que vous fassiez quelque chose. Il y avait une réaction derrière du Qatar qui faisait avancer une loi, la fin de la kafala. Derrière Amnesty, va vérifier ce qui se passe. Et est-ce que réellement sur le terrain, il y a des changements ou pas? Et le fait est que c'est compliqué, tu vois. Là où nous, en France, on a eu peut-être, je ne sais pas, 2 siècles de progression pour progresser, bah, eux, tu leur demandes sur 10 ans. Donc, évidemment, ça va pas. Évidemment, tout comme dans plein de pays. Et je trouve que, tu vois, ce travail-là, il est très important. Et donc, du coup, c'est bien que le débat soit là. C'est bien qu'il y ait une réponse aussi de l'autre côté. D'ailleurs, il y a un plan, et ça, tu vois, c'est en parlant aussi avec les gens qui sont concernés. Il y a un plan 2030 du Qatar qui est sur le droit social, sur l'évolution du droit social et sur l'écologie. Après, une fois que tu as dit ça, bah ouais, tu as des gens qui sont morts. Et ouais, personne ne devrait mourir pour le football. Et je m'en fous en fait du chiffre, tu vois, de te dire ouais, non, c'est 600, non, c'est 6 500, non, c'est une seule personne. Bah, personne en fait ne devrait vivre ça. Quelle famille en fait peut pardonner en fait, tu perds quelqu'un de ta famille? C'est des humains quoi, tu vois. Donc moi en fait, déjà, j'y vais en tant que journaliste, factuellement pour les choses, pour rester à ma place sportivement. Et si ça s'invite dans le débat sportif, sur le terrain ou même en dehors de cette Coupe du Monde, évidemment, j'en parle. Et tout le monde en parlera bien. Il n'y a personne qui nous a dit, vous n'allez pas en parler. Au contraire, en fait, on fait notre travail, c'est logique. Mais après, à titre personnel, moi, j'y vais en ayant une pensée, déjà, un, pour les gens bah, qui ont perdu quelqu'un de proche, et quand bien même c'est juste 2 personnes, pour des gens, et que ce soit au Qatar ou dans d'autres pays du monde, qui, en fait, sont discriminés par rapport à leur lieu de naissance, à leur religion, à leur sexualité. Enfin, en fait, c'est ça, c'est normal, en fait, c'est juste logique. Parce que tu te dis, imagine demain, en fait, tu serais né dans un autre pays et tu te retrouveras à leur place. T'as forcément de l'empathie, c'est logique, en fait. Donc j'aurai une pensée pour ces gens-là et j'aurai une pensée aussi pour les femmes. Parce que j'y vais avec moi mon objectif personnel, qui est aussi celui du rôle modèle féminin et qui aussi interroge la France sur pourquoi en fait il n'y a pas de femmes dans ce mondial-là pour la représentation en fait dans la diffusion de ce mondial. On est combien en fait à l'antenne? On est combien derrière? T'as des médias, ils partent, ils ont une seule femme. Donc ça, en fait, ça m'interroge. Donc moi, j'y vais déjà pour finir mon truc, pour finir mon histoire, et je pense que ce sera le chant du cygne, tu vois, peut-être. Je finis mon histoire, c'est-à-dire que voilà, moi en tant que, et c'est pour la première fois vraiment, je te dis, j'appuie sur mon genre. Je suis une femme qui va au mondial présenter, voilà, des matchs. Il n'y en a pas eu pour le mondial, il n'y en a pas eu avant. C'est normal? On est combien? C'est pas normal. Combien on va être pendant ce mondial? Et puis en même temps, en me disant que bah, voilà, dans ce pays-là, comme dans d'autres pays, bah, il y a des femmes qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir cette lumière sur elles et qui aujourd'hui ne peuvent pas parler, peuvent pas parler de leurs conditions, qui vivent des choses compliquées, même plus que compliquées. Et donc forcément, bah, voilà, j'aurais une grande pensée pour elles.
Vanessa, merci. Et puis à vous, merci aussi de nous avoir suivis pour un autre épisode de Call Interview avec encore une fois des invités dingues, des anecdotes en folie, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.